aller vers le rôle des revues dans la pensée théâtrale, la pratique, la circulation des idées, mais aussi la circulation des pensées d'acteurs et, via les documents iconographiques, la circulation des formes. Alors, pour en parler, nous avons avec nous le directeur, rédacteur en chef, mais aussi fondateur de la revue alternative théâtrale, Bernard Debroux, qui est à ma gauche. Bernard Debroux est un homme de théâtre et, comme disait hier le comédien Jean Libert, ah ben oui, lui c'est bien qu'il dirige une revue parce qu'il a vraiment mis la main à la pâte. Alors, il a dirigé la Maison de la culture de Tournai de 72 à 79, ensuite la Maison de la culture et le Centre dramatique de Namur de 83 à 97, et c'est là justement, pour reprendre les mots du comédien Jean Libert, qu'il s'est mis les doigts dans Diderot, Beaumarchais et aussi les auteurs contemporains comme Jean-Marie Piem. La direction, la gérance et la rédaction d'alternatives théâtrales prennent beaucoup de son temps, mais quand même il a trouvé le temps d'être le directeur du projet Théâtre et littérature de Bruxelles 2000. Bonjour Bernard Debroux.
Bonjour.
Nous avons aussi avec nous Denis Marlot, qui est un metteur en scène dont l'alternative théâtrale a souvent couvert les créations, les productions. Denis Marlot est metteur en scène. Il est co-directeur d'Ubu Compagnie de création qu'il a fondée en 1982. D'abord, ces spectacles ont été autour, en particulier, mais pas exclusivement, d'avant-gardes historiques comme le dadaïsme, le mouvement MERS de Schwitters, les futuristes russes ou l'Hippo, mais aussi la dramaturgie contemporaine. Hélène Cixous, Samuel Beckett, Coltès, et toujours des lignes de découvreurs, comme si on a pu voir, il y a une fossée en français de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est grâce à Denis Marlot. Également la création de textes, en particulier Normand Chourette avec son petit Quechelle et le passage de l'Indiana, ou Gaétan Soucy avec Cato Blépas. Ce qui est pour moi important dans le travail de Denis Marlot, c'est que c'est un travail de théâtre d'art, c'est-à-dire un travail où les langages de la représentation sont repensés à chaque création, ce qui l'amène aussi à travailler avec des créateurs qui ne sont pas nécessairement, dont la pratique n'est pas associée à l'art dramatique, que ce soit des plasticiens comme Michel Goulet ou des musiciens comme Denis Goujon ou Denis Bouliane ou en vidéo Stéphanie Jasmin, qui depuis maintenant 6 ans est co-directrice artistique de la compagnie. Son travail s'est beaucoup signalé ces dernières années par le travail sur les spectres, les effigies, comme à partir des 3 derniers jours de Fernando Pessoa d'Antonio Tabucchi, Les aveugles de Maeterlinck. Et d'ailleurs, en 2002, Alternative théâtrale a fait un numéro consacré à la modernité de Maeterlinck, mais beaucoup à travers l'approche qu'en a fait Denis Marlot. Récemment, on a pu voir de lui un autre spectacle où il y avait une utilisation spectaculaire de ses spectres effigies, Une fête pour Boris de Thomas Bernhardt. Denis Marlot a été aussi directeur artistique du Théâtre français du Centre national des arts de 2000 à 2007. Et puis, bien sûr, ces spectacles sont largement diffusés à l'étranger dans les grands festivals, en particulier le Festival d'Avignon qui l'a invité très souvent. Et finalement, à notre droite, Marie-Hélène Falcon, qui, en 1985, a ouvert le Festival de théâtre des Amériques, devenu maintenant... On est rendu déjà à la 3e édition.
Quatrième
du Transamérique. Écoute, ça va plus vite que le Transsibérien.
Ouais. Ça va vite.
Alors, avant de passer la parole à Bernard Debroux, vous dire quand même quelques mots sur la revue alternative théâtrale. Elle a été créée en 1979 et une chose déjà qui était remarquable, c'était son format. C'est une revue qui est consacrée à l'étude, à l'analyse du théâtre contemporain, tant l'écriture, la mise en scène, mais aussi l'art de l'acteur, la scénographie, mais aussi quel rapport le théâtre a-t-il au public? Quelle est la place du théâtre dans la société? Et on est rendu au numéro 104, je crois, maintenant. Et puis...
Il y a déjà la couverture du 105, mais le contenu n'est pas encore...
Voilà,
ça, le contenu est terminé, mais il n'est pas imprimé.
OK, j'allais dire parce que ça, c'est vraiment moderne. Ils font d'abord la couverture et ensuite ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire qui va avec la couverture?
Non,
vous
tout,
êtes
tout
pas...
est écrit, mais il est à l'impression.
Ah, vous me décevez. Bon, d'abord, même si d'abord les numéros avaient une approche générale, très rapidement, la revue a choisi une approche thématique, c'est-à-dire qu'il y a un dossier central au centre de chaque numéro. C'est une revue qui est en train de devenir une redoutable mémoire du théâtre contemporain. Et voilà, juste Denis qui va se faire porte-revue. Alors, comme lectorat, ceux qui, bien sûr, étudient et analysent le théâtre, mais ceux qui le font et ceux qui, tout simplement, s'y intéressent à titre de spectateur. Depuis 10 ans, même si Bernard Debroux en est toujours l'éditeur et le directeur de publication, il a un co-directeur pour le contenu en la personne du grand critique Georges Banu. Alors, voilà, maintenant parlons, j'ai beaucoup parlé. 1979, il y a un effondrement avec des écrits comme les maîtres, les écrits de premiers écrits comme La barbarie à visage humain, Glucksmann, les maîtres penseurs ou les maîtres à penser de Bernard-Henri Lévy?
Non, c'est l'inverse. Barbarie visage humain, c'est Bernard-Henri Lévy.
C'est Glucksmann. Voyez-vous, tout mélangé, mais quand même, il y a cet effondrement de la pensée de gauche et il y a tout ce changement de paradigme qui commence en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'on fonde à ce moment-là une revue de théâtre? Et surtout, alors que les revues de théâtre, on pense, bon, il y a eu théâtre populaire avant en France, on pense à des revues comme... travail théâtral dans les années 70, où en particulier du côté de l'iconographie, on a toujours l'impression que la revue était imprimée dans un village albanais avec des photos en noir et blanc à très gros grains. Alors, mais bon, quel était le portrait des revues et pourquoi en fonder une à ce moment-là?
Je crois que d'abord, bonjour, et je voudrais remercier Marie-Hélène de permettre que Alternative puisse s'exprimer ici dans le cadre de ce festival. Et merci aussi à Paul d'animer la rencontre et surtout aussi à Denis de venir témoigner de l'importance des revues et d'Alternative théâtrale en particulier. En fait, il y a des circonstances très particulières, concrètes, qui ont donné naissance à la revue et aussi, bien sûr, des circonstances générales que vous avez évoquées il y a un instant. En fait, à cette époque, je dirigeais donc la Maison de la Culture de Tournai, qui est une petite ville qui se trouve à la frontière française. On avait d'ailleurs pas mal de contacts avec Lille et on invitait, il y avait le théâtre de la Salamandre à Lille avec lequel on avait beaucoup de contacts, qui était dirigé par Gildas Bourdet, et à Tournai, j'étais un jeune animateur et j'ai invité à la Maison de la Culture toute une série de jeunes créateurs, de jeunes metteurs en scène qui travaillaient un peu en opposition, je dirais, avec un théâtre un peu entre guillemets traditionnel, dont la figure emblématique était en Belgique le Théâtre National à Bruxelles, qui n'avait pas, je crois, à cette époque pris la mesure des changements qui s'opéraient dans le théâtre, notamment avec l'influence de la dramaturgie, de tout un regard de théâtre critique, l'influence des sciences humaines qui débordaient l'université pour envahir le champ artistique. Ces jeunes metteurs en scène qui après sont devenus d'ailleurs des directeurs d'institutions, qui ont repris le Théâtre National plus tard et qui ont créé d'autres théâtres, je les accueillais et au cours des discussions on s'est dit mais ce serait important qu'il y ait une revue de théâtre en Belgique, et c'est vrai qu'il n'y en avait pas, et les modèles pour nous ça avait été bien sûr travail théâtral, théâtre populaire et notamment les figures de Roland Barthes et puis de Bernard Dort, qui pensaient que par rapport à une œuvre artistique, il pouvait y avoir une pensée, et c'est autour de cette, à partir de cette idée que la revue s'est créée, avec des ambitions de départ qui étaient assez précises. D'abord parce qu'on assistait à ce moment-là à l'envahissement, en tout cas le surgissement de l'image au théâtre. Dans le premier numéro, d'ailleurs, c'est une photo d'un spectacle de Bob Wilson au milieu des années 70, quand les spectacles de Bob Wilson sont arrivés. C'est vrai que ça a été une sorte de déflagration, en tout cas pour ceux pour qui le théâtre était d'abord du texte et le bien dire. Là, il y avait... je schématise un peu, mais en tout cas, c'est une période où le théâtre, de plus en plus, est un univers de signes, dont la scénographie fait partie, mais la dramaturgie aussi. Et c'est pour cette raison que on s'est dit qu'on allait tenter de raconter le théâtre à la fois par le texte, mais aussi par l'image. Et dans la revue, c'est peut-être ce qui fait qu'elle tient toujours, parce que c'est très difficile d'éditer des revues de théâtre et de les diffuser. Hein. Nos camarades de jeu sont certainement confrontés à la même difficulté. Il y a eu un moment Théâtre Public, qui était une bonne revue, qui a failli disparaître en France. Heureusement, elle a ressurgi. Mais donc, il y avait cette idée de rendre compte par le texte et par l'image. Et il y a donc un tiers d'image, à peu près deux tiers de texte dans chaque numéro. Et puis, c'était aussi la volonté de faire une revue internationale, c'est-à-dire d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre sur le monde. Et c'était à l'époque qu'il y avait les premières circulations. Maintenant, tout ça, ça a l'air évident, mais où commençait à y avoir des circulations, des spectacles dans les festivals, où il commençait à y avoir un petit peu d'argent aussi pour que les directeurs puissent, de festivals et de théâtre puissent voyager. Il y avait des échanges qui s'opéraient. Et donc... on a voulu rendre compte, c'était une ambition assez grande, de prendre le pouls de la création du contemporaine. Au départ, on voulait travailler aussi bien sur le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, bien que c'était des gens de théâtre qui étaient à l'origine. Finalement, elle est devenue essentiellement une revue de théâtre et de danse de plus en plus, mais donc internationale. Alors, en relisant, d'ailleurs, au moment des 30 ans, le premier petit édito que j'avais écrit un peu prétentieusement, j'avais dit, voilà, il s'agira de faire la différence entre ce qui est résolument moderne et de ce qui n'en a que l'apparence, ce qui était un peu prétentieux de dire ça. Et puis, les choses sont beaucoup plus compliquées, mais quand on est jeune et qu'on commence une revue, il faut avoir vraiment un point de vue. On avait envie d'une certaine radicalité. Les metteurs en scène, qui souvent n'écrivent pas, ont quitté le comité de rédaction après quelques années. Et puis, il y a un petit noyau qui s'est constitué. Je pense que c'est ce qui fait aussi sans doute la pérennité de la revue, c'est qu'on n'est pas très nombreux. Elle est devenue aussi, je vais très vite, mais elle est devenue franco-belge, d'abord parce qu'on a, bien sûr, on est 4 millions de francophones en Belgique et il y en a près de 60 millions en France, donc le public et les lecteurs, évidemment, sont bien plus nombreux, puis parce que c'est très proche et qu'on a, même si on a des spécificités en Belgique francophone, on est... très proche évidemment du théâtre français. Paul vient de le rappeler, très vite j'ai eu la collaboration de Georges Banu, qui est effectivement un très grand critique, un très grand penseur du théâtre, et à qui j'ai proposé il y a quelques années d'ailleurs de co-diriger la revue avec moi, parce que c'était de lui rendre justice, parce qu'il avait vraiment participé à l'élaboration et au contenu des numéros. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. On peut peut-être revenir sur son évolution dans un instant. Oui, simplement aussi, pour terminer, la revue est... On essaye d'en faire aussi un objet artistique à part entière, parce que vous avez parlé effectivement de son format. À partir du moment où on voulait rendre compte aussi par l'image Le format, on pouvait pas faire un format libre, on peut le faire, mais c'est évident qu'avec ce format, ça permet que les images puissent se déployer. Et on a toujours attaché une assez grande importance aussi à la qualité graphique de l'édition.
Denis Marlot, vous avez commencé votre pratique théâtrale peu de temps après la naissance d'Alternative Théâtrale. Quand est-ce qu'Alternative Théâtrale est entrée, pour une fois que vous l'avez eu entre vos mains, est-ce que vous vous en souvenez ou est-ce que ça a commencé à...
Je m'en souviens, mais réellement, c'est-à-dire je me souviens d'un numéro en particulier qui m'avait beaucoup intéressé, le numéro sur Carl Valentin, qui était donc le quatrième numéro. Et parce que je m'intéressais à Carl Valentin, évidemment, j'avais projeté à ce moment-là de faire un spectacle à partir des textes, des sketchs de Carl Valentin, mais qui n'a jamais donc existé, très curieusement. Et par la suite, c'est en arrivant au Festival de Liège avec mes deux premiers spectacles qui tournaient, Merz Opéra et Uli Pochot, que j'ai fait la rencontre encore plus importante. C'était un numéro consacré au théâtre québécois, en particulier, avec cette belle jaquette où il y avait une photographie de Louise Le Cavalier avec Marc Bélan, de La 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 de Marcel, en 1986, et je n'y figurais pas. Voilà, ça a été donc cette première... avec raison d'ailleurs, parce que j'avais pratiquement rien fait. J'ai commencé à travailler au sein du but dans une démarche aussi qui était, je dirais, quand même une démarche, je dirais, alternative, on pourrait dire. C'est peut-être dans cet esprit aussi que je me suis senti intéressé, interpellé par cette revue que j'ai continué de lire, de suivre. Il y a eu un numéro aussi encore plus important qui a été le numéro consacré à Thomas Bernhard. Et c'est vraiment par ce numéro que je suis entré en relation, évidemment directement par les œuvres, mais donc d'aller chercher le commentaire, d'aller chercher l'expérience théâtrale sur les œuvres de Thomas Bernhard. Ça a été donc ces textes. C'était, je pense, un numéro qui avait été fait avec le Centre dramatique Nuyer.
Exactement.
Il y avait eu une création.
D'Elvire Brisson, oui. Oui, c'est ça.
Je ne me souviens plus à partir de quelle pièce en particulier. J'avais été. Je pense qu'il y avait Marc Libens aussi qui avait aussi réalisé, et Fabien.
Michel Fabien,
qui avait fait des traductions de des pièces de Thomas Bernhard.
Oui, notamment.
Hein? Oui. Oui, voilà. Et que j'ai un spectacle d'ailleurs que j'ai pu voir en 92-93, je crois. Donc voilà. Puis je pense que dans mon parcours, la revue théâtrale, ça a eu beaucoup d'importance aussi du fait que quand j'étais au conservatoire, un des lieux de prédilection pour moi quand j'avais du temps à passer, c'était dans la bibliothèque. Et Madame Le Sourd, qui était la bibliothécaire à ce moment-là, recevait des publications nouvelles. Je suis sorti en 76, donc j'ai rencontré là des revues, je pense à Théâtre Public en particulier, Drama Review, des revues théâtrales qui ont commencé vraiment que j'ai commencé à lire, où j'ai découvert des approches de mise en scène, de nouveaux metteurs en scène, de nouveaux scénographes à travers les images. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup motivé aussi mon envie de me déplacer aussi géographiquement, donc d'aller voir sur place, d'aller à Paris, d'aller en Europe ensuite pour passer 2 années à voir du travail de mise en scène, ce qui a été, je pense, très très important dans ma démarche. J'y suis souvent revenu dans les entrevues. C'est quelque chose qui a foncièrement été une sorte de source d'inspiration, la rencontre en fait des metteurs en scène européens. Dans une époque où il y avait, je pense, une grande effervescence, où je découvrais le théâtre de Strehler et à la fois celui de Tadeusz Kantor à Nancy, où j'étais confronté aussi aux approches, aux relectures de Antoine Vitez, de Chéreau. Donc il y avait tout ce brassage qui a fait qui se retrouvait dans les revues, qui se retrouvait évidemment parce qu'on en parlait, parce qu'il y avait une sorte de, je pense, il y avait aussi cette approche aussi du commentaire, c'est-à-dire que cette idée que le commentaire aussi est quelque chose d'absolument fondamental au théâtre, et que là, je je trouvais à travers les revues une expression, celle d'expression chez les créateurs en tant que tels, chez les metteurs en scène qui parlaient de leur travail. Et ben voilà, ça a été un peu ça ma première rencontre avec les revues.
Je reviendrai pour d'autres questions à Denis Marlot. J'aimerais m'adresser à Marie-Hélène Falcon. Des revues de théâtre, pour une directrice de festival, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une décoration dans le bureau?
C'est fondamental. D'ailleurs, ça ne décore pas du tout le bureau. C'est sur nos bureaux, c'est dans nos sacs, c'est à la maison, c'est un peu partout. Oui, c'est extrêmement important parce que c'est à travers les revues qu'on arrive à percevoir la profondeur d'un champ d'action, d'un champ de création. C'est impossible de tout voir, c'est impossible d'être partout, mais des revues alternatives, entre autres, et particulièrement intéressantes à cet égard-là, c'est souvent des revues thématiques. Je pense, par exemple, un très bel exemple, c'est le numéro sur le risque à l'occasion du Festival d'Avignon, où les metteurs en scène s'expriment sur cette notion, sur cette idée de risque, qu'est-ce qui est un risque pour eux. Et bon, alors c'est à la fois historique, puisque ça nous permet de faire le tour de beaucoup de monde et des mouvements importants et des artistes importants, et c'est à la fois important parce que ça nous permet d'avoir un panorama et d'avoir un sens de la profondeur de ce qui se crée aujourd'hui, en lien souvent avec le passé, toujours dans une perspective et puis il y a plusieurs revues aussi, donc de les croiser, c'est absolument nécessaire et passionnant. Alors c'est un outil de travail incontournable quand on fait ce genre de travail à peu près inventé, qu'on n'est pas très nombreux à faire de par le monde, mais c'est ce que je peux vous dire, parce que depuis toujours, depuis le début, c'est un outil de travail important.
Alternative théâtrale, a-t-il pour toi des caractéristiques qui le distinguent d'autres revues internationales ou francophones en particulier?
L'objet que c'est, la magnificence et tout l'aspect visuel de la revue est extrêmement intéressant parce que ça illustre aussi admirablement. Bon, les textes sont évidemment importants, bien sûr, mais beaucoup de revues ont des textes importants, mais il n'y a pas d'autres revues vraiment qui soignent la qualité visuelle avec autant, je dirais. En fait, je peux me tromper, je ne les connais pas, mais j'en connais beaucoup des revues de théâtre. Donc, c'est une... On voit, on peut voir, et c'est abondamment photographié.
C'est intéressant parce que le tout dernier numéro d'Alternative théâtrale, c'est Théâtre du désir et désir de théâtre. Oui. Et ça m'amène à parler d'une chose, à revenir sur la question de l'iconographie d'Alternative théâtrale. Quels sont les critères qui président au choix de l'iconographie? Parce que quelquefois, on regarde, on se dit, c'est peut-être pas nécessairement un document iconographique qui, en guillemets, représente de façon juste l'objet théâtral, mais des fois j'ai l'impression que ça crée entre un document, je dirais, qui représente de façon juste et un document qui crée le désir de voir l'objet lui-même, de prendre un billet de train, d'avion, tout ça, ou de surveiller. Qu'est-ce que vous choisissez? Parce que les photos d'alternative théâtrale sont souvent extraordinairement désirantes, sont des machines à faire désirer le théâtre.
Ben, d'abord, je dois le citer parce que c'est le même graphiste qui est un ami d'enfance et avec qui on a fait la revue depuis le début et qui est, je pense que c'est un très bon graphiste et qui est très exigeant et très rigoureux. Il a évidemment un style avec lequel il a marqué aussi très, très fort la revue. On a parfois des tensions d'ailleurs entre nous parce que évidemment, lui, c'est l'image. C'est l'image, le rapport à l'image et le texte, évidemment, qu'il travaille, mais avec une prédominance à l'image. Et il y a évidemment toujours la recherche du sens. Je vais revenir, mais je voulais dire une toute petite chose par rapport à ce que Marie-Hélène a dit, parce que c'était important aussi sur les... elle a utilisé le mot profondeur. En fait, ce qui était important aussi pour une revue, je crois qu'on est tous... C'est ça qui nous fait exister et qui nous donne le désir de poursuivre notre travail, c'est qu'on se distingue de la précipitation journalistique. Bon, les journalistes sont importants, et ils sont importants, mais souvent, en parlant avec les artistes, sont parfois un peu frustrés, même quand on dit du bien de leur spectacle, parce que, je veux dire, il y a une sorte d'écriture qui est d'écriture dans l'urgence aussi, parce que c'est pas toujours évident. Je me rappelle, puisque j'ai cité Bob Wilson tout à l'heure, que je crois que c'était en 75, ou je suis pas sûr de la date, mais quand j'ai vu Einstein on the Beach à Avignon, et j'étais à la sortie avec un critique et qui doit écrire le lendemain, il a jamais vu ça dans sa vie. Donc je dirais, c'est vrai, il doit quand même se décider est-ce qu'on se moque de moi ou est-ce que c'est vraiment extraordinaire l'événement. Mais bon, voilà, donc c'était important de dire ça. C'est qu'on a, il y a cette distance qui se crée et qui nourrit, et je pense qui nourrit et les artistes et aussi les gens qui sont responsables du théâtre. Alors maintenant, je reviens à l'image. Il y a, avec quelques exceptions, parce qu'il n'y a jamais de règles sans exception, on refuse toujours tout portrait, par exemple. Donc c'est-à-dire que les portraits des acteurs, ça ne nous intéresse pas, sauf quand il y a vraiment quelque chose dans le visage. On privilégie toujours les photos qui représentent l'action du théâtre, même quand il est comment dirais-je,
sans action,
sans action, mais même quand il est je dirais dans la lenteur, ou même quand c'est pas, ça peut paraître figé, ou quand c'est le cas des marionnettes par exemple, mais en tout cas on essaie de donner une image qui témoigne du travail du metteur en scène, parce que je sais pas si vous les avez fait allusion au début, c'est surtout et d'abord une revue de mise en sur la mise en scène. D'ailleurs on publie que très occasionnellement de textes, on ne publie pas de textes de théâtre. Il y a eu Normand Chauret, justement, oui, quand on a fait le numéro sur le Québec. Howard Barker vous a donné un petit inédit. Donc quand on travaille avec des auteurs, même si ce n'est pas notre mission d'éditer des textes, on n'a jamais voulu le faire. Quand on a fait le numéro Coltès, on a eu, depuis lors, le hasard a voulu que c'était au moment ou juste après sa mort, mais c'était pas prémédité. Et son frère François Coltès nous a donné le texte Tabataba qu'on a publié, qui a ensuite été repris chez Minuit, mais on l'a publié d'abord parce que c'était au moment, le temps était là, et que François était heureux qu'il y ait un numéro sur son frère, et il nous a donné ce texte-là. Mais donc, je reviens donc à cette idée de l'image, c'est qu'on essaie de rendre compte. Au début, d'ailleurs, je me rappelle c'est dommage qu'on n'a pas continué, mais on ne peut pas non plus rentrer dans une sorte de systématisation. Mais je me rappelle que Georges Banu avait écrit sur le Carmen de Peter Brook, donc c'était il y a très longtemps, tout au début, et il avait fait des images commentées, c'est-à-dire que pour montrer l'importance des éléments naturels, de sable qui glissait de la main de Carmen, etc. Mmh. Donc il y avait les photos, et puis une sorte de petite légende. On le fait encore, mais donc pour indiquer que l'image est à la fois est une sorte de contrepoint, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être tautologique avec ce qui se dit, mais en tout cas qui veut tenter de rendre compte de la mise en scène. Et puis aussi, puisque avec le temps, je ne savais pas quand j'ai créé la revue qu'elle allait exister encore 30 ans plus tard, mais bon, on se rend compte qu'on est devenu une sorte de mémoire du théâtre contemporain. Je ne crois pas qu'il y a bon, c'est toujours un peu subjectif, mais je ne crois pas qu'on ait oublié beaucoup grand monde qui a compté dans le théâtre, en tout cas occidental, entre guillemets. On a fait aussi un numéro sur le théâtre au Japon, mais c'est plus extérieur, et sur le théâtre africain. Mais c'est aussi rendre hommage aux acteurs, parce que souvent quand on fait défiler, ou quand les couvertures, ou quand les gens peuvent feuilleter les revues, il y a aussi la mémoire des acteurs par l'image, pas seulement la mémoire des textes et des auteurs. Voilà.
Je voulais justement relancer, Denis Marlon, sur la question de la mémoire. C'est-à-dire que Est-ce que pour vous, Denis Marlowe, des revues de théâtre, prenons spécifiquement l'école d'alternative théâtrale, c'est une part de la mémoire du but? Et au-delà de la mémoire, quel est le rôle d'une revue dans l'inscription d'une pratique théâtrale dans l'histoire?
Je pense à la revue consacrée à Metternich et au travail que j'ai fait. Je pense que ce qui a été important, c'est aussi l'invitation qui a été faite à des collaborateurs, par exemple, de pouvoir s'inscrire à l'intérieur de la revue, donc de prendre avec un certain recul le temps de réfléchir, d'écrire sur le processus, par exemple, comme l'a fait Stéphanie Jasmin sur le processus de réalisation de l'image vidéo au service du personnage, comme tu l'as fait, Paul, tu me permettras, mais de recadrer, de remettre en situation la compagnie, son histoire, dans le contexte culturel québécois. Donc, de permettre donc une espèce de, je dirais, de regard transversal qui permet donc de porter plusieurs éclairages sur une pratique. Moi, ça m'a parfois surprise que je pouvais retrouver dans la revue des choses que je n'avais jamais entendues sur mon travail et qui maintenant se déclaraient. Et puis des fois, des choses qui sont assez prévisibles. En fait, il y avait un mélange des deux, mais je crois que c'est inévitable. Il y a et puis des idées aussi parfois qui provoquaient chez moi certaines frictions, je dirais. Mais je pense que c'est la chose, en tout cas, c'est le retour que je peux en faire, moi, comme praticien, comme metteur en scène qui a pu se retrouver dans un des numéros de la revue. Je crois, évidemment, pour la compagnie, en particulier avec ce numéro, en plus de ça, parce que ça fait 10 ans qu'on va fêter bientôt le 10e anniversaire des Aveugles du But, de Metternich, qui tourne encore. On est au Brésil au mois de juillet prochain. C'est clair que c'est aussi un outil de promotion absolument formidable. Il ne faut pas se le cacher. C'est quelque chose qu'on transporte souvent dans nos caisses de décor et qu'on présente à des directeurs de festivals, à des journalistes ou même en format PDF maintenant, puisqu'on a accès à ce numéro
qui est épuisé
et qu'on peut donc retrouver comme ça. Donc c'est clair que pour nous c'est une façon aussi de faire connaître le travail de la compagnie à un moment donné, parce que le travail ne s'est pas arrêté là, il s'est poursuivi, il se développe, mais je crois que c'est comme une photographie de la création du but. Voilà, c'est...
Marie-Hélène, quelque chose à dire sur la fonction de mémoire. On a toujours l'impression qu'un festival, c'est quelque chose qui est toujours dans la projection en avant, mais il doit y avoir une fonction mémoire quelque part.
C'est bien évident. Dans la mesure où on cherche aussi à inscrire la création contemporaine dans une histoire. Et un exemple de ça, cette année, c'est bien d'ouvrir le festival avec le dernier spectacle de Merce Cunningham. On dit souvent que le festival est un festival de références et de découvertes. Et bien, c'est extrêmement important, à mon sens, qu'un festival puisse occasionnellement situer la pratique contemporaine dans une continuité, dans une histoire de l'art, justement.
Aussi avec la reprise de Lara Tremblay aussi.
Avec la reprise, aussi, c'est vrai, bien sûr. Merci d'ajouter ça. Mais la reprise de Lara Tremblay, Dragonfly, est une pièce qui a été créée il y a une quinzaine d'années, qui a été créée au Festival de théâtre des Amériques, d'ailleurs, qui a été reprise et qui a quand même pas mal tourné. Donc, c'est important parce que à la création, il faut, je crois, beaucoup de metteurs en scène le disent, rester très proche de l'auteur, de l'écriture. Mais X années plus tard, il est important de prendre une certaine distance avec les œuvres et avec les premiers moments de la création. Donc, pour que effectivement cette œuvre vive et s'inscrive effectivement dans l'histoire, dans le répertoire, il faut que c'est nécessaire que ce soit repris, que ce soit recréé. Donc, moi, j'ai trouvé ça important aussi de l'inscrire, mais dans cette perspective, dans cette perspective-là. Donc.
Bernard Debrou, vous avez fait allusion à, pour moi, une des caractéristiques d'alternative théâtrale qui n'est pas... mais qui peut-être fait partie d'un des secrets, ce pourquoi cette revue-là reste toujours aussi pertinente, c'est-à-dire que vous produisez souvent vos numéros en collaboration avec des structures de création théâtrale. C'est assez inusité. Parlez-nous de ça et de l'avantage que ça donne à une revue, parce que finalement, quand on travaille avec des gens qui sont là pour créer, ça peut vous empêcher d'être dans le champ, comme on dit chez nous.
Il y a des raisons économiques, d'abord, simplement, surtout depuis quelques années. Donc la revue bénéficie d'une petite subvention du ministère de la Culture en Belgique, et depuis quelque temps d'une aide symbolique, mais qui nous fait plaisir, du Centre national des lettres en France. Mais c'est clair qu'un objet comme celui-là, on n'arrive pas à le sortir sans des moyens complémentaires. Et en fait, j'ai fait allusion tantôt au numéro sur Coltès. Je crois que c'était un des premiers partenariats qu'on a eu. C'était Louis Pasquale qui était directeur du théâtre de l'Odéon. Et on avait envie de consacrer un numéro, parce que je n'ai pas dit les différents types de numéros qu'il y a. Il y a des numéros sur les univers géographiques, il y a des numéros sur des auteurs, pas nombreux, mais il y en a une dizaine, des numéros sur les metteurs en scène, et parfois même, on a fait deux ou trois fois, un numéro entier sur un spectacle, comme on l'a fait sur le Mahabharata de Peter Brook, ou récemment sur Rwanda 94 du groupe Off et Jacques Descuveries. Et donc, j'avais été voir Louis Pasquale qui était à l'Odéon, et je lui ai expliqué. Il m'a dit: bon, mais on va vous aider à faire le numéro. Il nous a donné une somme d'argent relativement importante. Il a juste fait la préface, donc c'était vraiment un acte généreux de sa part, parce qu'on ne parlait pas de Louis Pasquale dans le numéro. Mais il trouvait que c'était son rôle de directeur du théâtre de l'Europe, de l'Odéon Théâtre de l'Europe, de rendre compte de l'importance qu'avait Coltès, en tout cas à ce moment-là, dans les années 80, enfin, c'était d'ailleurs au moment de sa disparition. Et par la suite, ces expériences se sont multipliées dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a été trouver des structures, des théâtres, des festivals, même des universités, des institutions artistiques, en leur proposant de collaborer avec nous autour d'une thématique, ou inversement, les structures nous ont fait des propositions en disant: est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous? Et je dois dire, bon, ça a été le cas notamment plusieurs fois avec le Festival d'Avignon sous la direction de Bernard Fèvre-Dercy, et puis quand la jeune équipe est arrivée, parce que j'ai rencontré justement Vincent Vaudrier chez un dîner un soir chez Denis ici à Montréal, alors qu'il n'était pas encore nommé. Mais dès qu'il a été nommé, il m'a téléphoné, il m'a proposé: est-ce que tu veux que pour les quatre premiers festivals qu'on fait, Alternative Théâtrale est d'accord de les accompagner autour de la thématique du festival? On a parlé de l'épreuve du risque, qui était le second. Le premier, c'était sur le théâtre à Berlin, parce que le premier festival était très orienté sur la dramaturgie allemande. Et c'était évidemment pour nous important, non seulement parce que l'aide financière nous permettait de travailler, de voyager un peu, d'aller voir les spectacles, etc., et de commander les auteurs qui étaient à la fois allemand et français et belge sur ce premier numéro, mais en même temps c'était une vitrine pour la revue elle-même, bon, qui était connue à Avignon, mais le fait que ce soit le festival qui lui donne son aval en quelque sorte, donc c'est dans les deux sens, parce que je pense que c'est Denis a dit très honnêtement, et je trouve que souvent c'est le cas, que les artistes ou les structures, les théâtres ou les festivals avec lesquels qui sont les partenaires s'en servent aussi comme moyen de faire connaître leur travail. Je trouve que c'est bien, parce que ça le fait pas de manière publicitaire en quelque sorte, mais pour reprendre ce que disait Marie-Hélène, justement, sur un regard critique sur le travail, oui, pour ceux qui veulent puiser dans, je dirais, une pensée, une réflexion, et en même temps, c'est quand même, ça paraît très sévère tout ça, mais c'est quand même aussi un objet de plaisir, oui, alternative, oui, à feuilleter. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que,
oui,
je suis embarqué dans...
On a fait le tour, on est revenu, mais oui, je trouve que la question, en effet, c'est-à-dire que c'est un regard, mais c'est aussi un regard et une écoute en profondeur. Et c'est ça, justement, qui fait que ce n'est... Oui, ça peut être un objet de communication, d'un spectacle, mais c'est un objet aussi qui montre à quel point certaines œuvres, certaines démarches ont de très vastes échos. Et c'est là, je dirais, la force des revues, et en particulier l'alternative oui, théâtrale.
Je voulais, pour aller, parce qu'il y a une chose que je voulais rajouter par rapport à votre question, c'est que les partenariats aussi, pour une revue qui est relativement modeste, dont le tirage est relativement limité, ça permet chaque fois, dans un lieu, de trouver un public différent. C'est-à-dire que oui, quand on travaille avec la Comédie de Genève, ben, tout d'un coup, on élargit, on fait connaître la revue en Suisse, ou même dans des villes françaises, quand on travaille avec la Comédie de Caen, comme c'était le cas avec la Cascade quand il y était, eh bien, il y a l'université qui est à Caen, il y a des gens... Et donc, on élargit... en tout cas, on permet à un public de nouveau de connaître. Bon, je crois que les gens qui font l'édition connaissent bien ce phénomène, c'est que tant qu'une revue existe, on continue toujours à se renseigner sur les anciens numéros, parce qu'il y a toujours un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans qui va arriver dans un festival à Avignon ou à Montréal, et puis qui va découvrir une revue, et puis elle va dire, tiens, il y a eu Cantor, comment je fais pour... voilà. Donc, tant qu'une revue est en fonctionnement, eh bien, elle continue à vivre. Mm-hmm. Et heureusement, parce que il faut voir les bons côtés aussi d'Internet, nous, on est plutôt... objet livre, on défend les libraires et on est plutôt ça, mais l'avantage, puisqu'il y avait quand même un tiers des numéros qui étaient épuisés, qu'on n'a pas les moyens de les rééditer, c'est qu'on les a mis tous maintenant en format PDF, et que pour 5 euros on peut télécharger tous les numéros, donc y compris celui sur Materlingue Marlowe qui est épuisé.
Et le
ça, on l'a fait pour les 30 ans, on s'est dit, on va... voilà, on va permettre aux étudiants, aux jeunes, à ceux qui s'intéressent au théâtre, aux praticiens, de pouvoir retourner dans le fond et se procurer tous les numéros sur... soit, donc, on ne met pas en PDF tant que le numéro livre existe, on prend d'abord le numéro livre, mais après...
Après, voilà, on commence une éternité électronique. J'ouvrirai les questions à la salle. On a beaucoup parlé entre nous.
Je suis curieux de savoir si vous posez certaines des questions que nous nous posons à la revue Jeu. Nous publions 4 fois par année, vous 3 fois. Nous avons un format petit. Bon, nous sommes dans un très petit marché. Vous aussi, seulement vous êtes tout près de la France, alors c'est plus facile d'envoyer, de distribuer vos revues en France que nous. Bon, à cause des frais de transport,
bien sûr,
c'est les mêmes. Quadruple le prix de la revue. Il faut bien le savoir. Mais en tout cas, parmi les questions que nous nous posons, mais régulièrement depuis 34 ans, parce que notre revue existe depuis 34 ans, c'est la périodicité. Nous sommes publiés 4 fois par année, et il y a constamment une question qui revient chez nous. Est-ce qu'on devrait publier plus souvent et coller de plus près à l'actualité théâtrale, à l'activité théâtrale, ou rester cet entre-deux, entre le magazine et l'album. Parce que nous avons fait un album sur le théâtre Ubu, un album sur le théâtre du Nouveau Monde. Nous avons fait ce genre d'objets, de bels objets en couleur, etc. Nous sommes entre les deux, si vous voulez. Et donc, il y a cette pression qui revient constamment chez nous. Est-ce que chez vous, ça existe aussi?
Ouais, je crois délibérément... Bon, d'abord, on est un trimestriel, mais... comme on prend du temps pour faire les numéros et qu'on a une petite équipe et qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire 4 numéros de ce type-là par an, donc on en fait 3 avec un numéro double. Maintenant, on publie plus parce qu'on fait aussi des hors-séries, qui sont carrément là des commandes. qui sont soit des monographies qui sont entièrement financées alors par ceux par, qui, avec lesquels on comment dirais-je, on collabore, mais délibérément bien sûr on colle à l'actualité. Par exemple, quand on faisait les numéros sur le Festival d'Avignon, avec le Festival d'Avignon, sur les thématiques d'Avignon, il y avait des spectacles existants qui avaient été vus, dont on faisait la critique ou dont on interrogeait. Oui, ça c'est aussi quelque chose d'important. Il y a cet équilibre texte et image. Il y a aussi un équilibre texte-entretien. Donc c'est toujours donner la parole aux artistes, aux acteurs, aux metteurs en scène, aux scénographes. Il y a un équilibre qu'on essaie de trouver aussi comme ça se passe d'ailleurs dans les revues, mais chez Jules aussi, entre entretien et texte. Mais donc, je pense pas que c'est le rôle des magazines, et les magazines de théâtre, c'est compliqué. Ça se casse souvent la figure, il faut de la publicité, il faut faire des tas de choses. Je pense qu'il y a la presse qui est là pour faire le travail, que ce soit dans la presse quotidienne, que ce soit dans les hebdomadaires, qui fait ce travail de critique. Et je pense que c'est une autre manière de coller à l'actualité, mais ce n'est pas lié nécessairement à être au moment où le spectacle se... Bon, ça accompagne les spectacles qui ont une vraie durée de vie. Bon, c'est le cas des aveugles dans la mise en scène de Denis. C'est le cas par exemple, Rwanda 94. C'était un spectacle dont la préparation a duré 4 ans, donc on a pu suivre, et puis au moment dans son exploitation il y a encore eu 4 années, puis ils ont été rejoués au Rwanda pour le 10e anniversaire du génocide, pour la commémoration du génocide. Donc effectivement il y a des numéros qui accompagnent, mais on ne se pose pas cette question de cette manière-là, de coller à l'actualité. On essaye plutôt de coller aux enjeux de la création à un moment donné, soit d'un spectacle, soit d'un courant, soit... C'est pour ça que l'idée des thématiques était quelque chose qui a aussi dynamisé très fort la revue à un moment donné, où c'était un peu difficile, parce qu'à la fois, elle a permis les partenariats, et en même temps, c'est chaque fois une idée particulière, un regard particulier qui est posé sur des spectacles ou sur des auteurs ou sur des courants à un moment donné. Par exemple, ça permet tout d'un coup de regarder différemment le travail d'un artiste. Les liaisons singulières, par exemple, qui était un numéro où qu'on a fait en interrogeant un metteur en scène avec l'acteur ou l'actrice avec lequel il avait fait un parcours, et on interrogeait et le metteur en scène et l'acteur. On est retourné à Gérard Philippe et Jean Villard, et puis c'était justement le numéro qu'on a fait avec La Cascade et la comédienne Adachia avec laquelle il travaille. Donc ça permet, on a une thématique, et puis on regarde autour dans le paysage théâtral quels sont les gens qui pourraient rentrer à l'intérieur de cette. Et puis c'est lié aussi bien sûr aux spectacles qui se font à ce moment-là. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, d'abord, on ne pourrait pas faire plus que 3 ou 4 numéros. Et je pense que c'est bien de prendre le temps. Et par exemple, ici, j'aimerais bien qu'on refasse, puisque 86, c'est loin, un numéro sur le théâtre et la danse contemporain au Québec. Et ce serait bien si ça pouvait sortir... dans un an, il faudra un an pour le faire. En général, on prend 6 mois, 7 mois pour faire un numéro. Comme ici, il y a l'océan entre les deux, je crois qu'on doit rajouter un peu de temps. Donc, si on veut le faire dans un an, il faut commencer à y penser maintenant. Et voilà, c'est un autre type de. Mais je comprends qu'on puisse être tenté de dire on veut suivre au plus près. Je comprends la question.
Les jeunes artistes qu'on est, c'est une revue vraiment importante, parce que la temporalité dans laquelle vous êtes fait qu'on peut revenir par exemple à un numéro qui est sorti il y a 10 ans, et qu'on a un rapport, non seulement on a un rapport à l'œuvre de tel ou tel artiste, mais en plus on a un rapport à son inscription dans son époque au moment où vous avez publié le numéro. Ce qui fait que c'est c'est assez essentiel pour nous, parce que dans la manière dont nous, on veut s'inscrire dans une histoire, le théâtre, la danse, ça nous aide à lire ou à percevoir des rapports dans des époques données, les rapports entre une œuvre et son époque, et voilà, et son évolution. Et c'est vraiment une chose très précieuse pour nous. Moi, j'étais très d'accord avec ce que disait Denis Marlowe. Pour nous, encore aujourd'hui, c'est une revue importante.
Ça fait plaisir d'entendre ça.
Ouais. Le temps avance, nous allons prendre une dernière question de la salle. Sinon, moi, j'en ai une.
Moi, je voulais savoir comment vous réunissez les auteurs qui varient sur chaque numéro. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que vous faites des commandes à des auteurs?
Donc en fait, il y a...
Parlez de votre comité de rédaction.
Oui, donc le comité de rédaction est franco-belge. Donc elle a dit, je dirige la revue maintenant avec Georges Banu. Il y a quatre auteurs belges et quatre auteurs français. Ben, Georges Banu est d'origine roumaine, mais maintenant il est... donc c'est le... Et on essaye aussi de faire rentrer... Il y a des gens qui quittent, de faire rentrer des gens plus jeunes. Bon, la dernière personne qui est rentrée n'a pas 30 ans. C'est aussi important parce que il faut le regard, ça bouge aussi avec les générations. Donc, et en fonction des thèmes, on fait appel et on fait les commandes à d'autres auteurs. Évidemment, on n'écrit pas tout seul tous les numéros. Au contraire, il y a vraiment un champ très ouvert. Et dans les numéros. Qui sont faits sur les univers géographiques. Bon, le dernier que j'ai coordonné, c'était sur le théâtre au Chili, où j'ai eu la chance d'aller deux, trois fois. Il y avait 80% des rédacteurs qui étaient chiliens et les 20% qui étaient belges ou français. Donc, en allant sur place, en parlant avec les artistes, et je crois que c'est important de faire ça, d'avoir une sorte de balance entre... enfin, en tout cas, pour ces numéros-là... Et je pense qu'ici, c'est un peu l'idée qu'on aurait aussi, c'est de prendre appui sur le, comment dirais-je, le champ critique au Québec, et puis aussi d'avoir un regard extérieur avec les. Mais c'est clair que bon, il y a les trois figures de théâtre qui sont bien connues, c'est Denis bien sûr et Waji Wawad et Robert Lepage. Et puis alors, il y a aussi une découverte à faire. Bien, on en connaît d'autres, hein, c'est pas. Mais je veux dire qu'en Europe, ils sont bien connus. Mais c'est une découverte à faire sur les jeunes créateurs, sur la génération qui a suivi ou les deux générations qui ont suivi. Voilà. Donc c'est. Il y a une sorte de dynamique, de dialectique qui se crée comme ça, et toujours par les contacts, en parlant, en voyant. En général, on sait très vite quand on arrive quelque part, on recroise les informations, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais on sait très vite, mais puis après, on prend le temps quand même pour que ça se passe. Il y a les images, etc.
Alors, pour conclure... Une question personnelle et rapide. Votre numéro, votre article ou votre point favori dans l'alternative théâtrale? Est-ce qu'il y a un numéro des fois qu'on ressort plus souvent ou qui a fait plaisir?
Oh, il y en a plusieurs, écoute. Celui des troisièmes, de Thierry Salmon.
C'est le troisième qui a été fait sur un spectacle. C'était le premier qu'on avait fait il y a très longtemps, hein, les troisièmes, oui.
Mais disons, pourquoi pas celui-là?
Celui-là?
Denis. Il était épuisé, il va aussi revenir en
télé. Il
y a le numéro sur les répétitions, je trouve absolument remarquable,
oui.
Par la force des témoignages, par la diversité des témoignages, j'aurais aimé ça en faire partie. chose à dire. Mais je pense que Georges, en fait, pour être honnête, Georges m'en avait parlé, et puis pour toutes sortes de raisons, j'ai pas eu le temps de répondre à son invitation, mais j'ai trouvé ça remarquable, ça m'a beaucoup inspiré.
En tant qu'animateur, je répondrai le numéro sur Howard Barker, auquel je m'intéresse depuis longtemps. Et les Britanniques, même si Barker est des Britanniques, écrivent pas sur Barker, ils savent pas quoi faire avec Barker. C'est comme une patate chaude, tout ça. Et d'avoir finalement une diversité de paroles, souvent francophones, autour de cet auteur-là, est quelque chose que j'ai dévoré et que je redévore des fois maintenant à petite dose. Merci beaucoup. Mais Bernard, donc, on ne demande pas un père lequel de ses enfants est son favori.
Non, sinon je serais obligé de dire celui de son ami. Non, je ne dis pas. Mais, mais les 30 ans, ça, c'est vrai que c'était... D'abord, je vais dire un mot sur les répétitions, parce que c'est vrai que c'est le numéro qui a eu, avec celui de Coltès, le plus de succès. On a fait 3 éditions, ce qui pour une revue est énorme, parce qu'on a atteint 7000 exemplaires avec les 3 éditions. Ça paraît beau, peu comme ça, mais pour une revue, c'est beaucoup. Et d'ailleurs, après, ça a été repris chez Actes Sud dans la collection L'Art du Théâtre, parce qu'on ne pouvait plus faire une 4e édition. Et tous les textes n'y sont pas. Mais ça n'a pas le même impact, parce que c'est le format... au niveau de la recherche. Et puis, donc, l'année dernière, au moment du Festival d'Avignon, on a... À 8, donc les 8 rédacteurs, on s'est partagé la relecture qu'on a oubliée. Moi, je ne sais plus les centaines plusieurs centaines de collaborateurs, évidemment, qui ont écrit, puisqu'il y a entre 15 et 20 articles par numéro. Donc, au début, il y en avait 5-6, puis maintenant, il y en a facilement 10-15. Et donc, on a fait ce numéro qui était. On a beaucoup réfléchi comment va-t-on faire. On a décidé de reprendre chaque numéro, de mettre une petite vignette avec la couverture, une photo, et on a choisi 2 ou 3 textes, 1-2 textes à l'intérieur. Donc c'est comme une sorte d'histoire de la revue qui en même temps est une sorte d'histoire subjective du théâtre. Donc de tous les numéros jusqu'au numéro 100, maintenant on est au 105 parce que la vie continue. Et donc je vais dire ça en terminant. Donc pour il y a donc un site internet où on peut trouver les numéros. Je répète, on préfère passer par des libraires et on va essayer de trouver des formules pour comment améliorer la situation ici au Québec. Mais on peut les envoyer par la poste. Ça coûte très cher, effectivement. Là, on a le même problème quand on veut passer l'Atlantique. Mais en tout cas, sur les numéros épuisés, on peut les télécharger en PDF. Ça n'y a pas de problème. Tout ça se trouve sur le site.
Marie-Hélène Falcon, Denis Marlot, Bernard Debrou, vous tous, merci.
D'accord.
Merci beaucoup.
Ouais, c'est bon à savoir. Profitez-en. Merci beaucoup. Merci.